Alors, nous allons commencer le débat. Je reprécise qu'il faut que chaque organisation ne fasse qu'une intervention, qu'il faut essayer de faire des interventions assez courtes. Et bien évidemment, d'autres personnes peuvent intervenir. Il y a un camarade de ce côté-là.
Merci, bonsoir. J'interviens pour la Ligue trotskiste. Et nous sommes d'accord, d'après la présentation, que l'Union européenne est une alliance impérialiste dominée par la France et l'Allemagne pour le pillage des pays plus pauvres d'Europe et pour mieux exploiter les travailleurs partout en Europe. Et le souverainisme est souvent impérialiste ou le libéralisme est également impérialiste, nous sommes d'accord. C'est une polarisation réactionnaire. Le problème, c'est que la ligne de lutte ouvrière ne fait rien pour briser cette polarisation réactionnaire. Il ne suffit pas de prôner la révolution prolétarienne et un monde sans frontières, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que nous sommes dans une situation complètement réactionnaire partout en Europe. Il faut établir un pont entre la réaction actuelle et la révolution. Ce qu'il faut, c'est démontrer une voie de lutte prolétarienne anti-impérialiste indépendante. Cela requiert une opposition claire, nette, anti-impérialiste des principes à l'Union européenne dans le cadre de la lutte aujourd'hui pour le pouvoir des travailleurs et pour une direction révolutionnaire. De ne pas le faire a par conséquence de pousser les travailleurs au bras soit du RN qui est de plus en plus qui devient de plus en plus populaire, soit de Macron. De ne pas les faire est tout simplement une capitulation à l'impérialisme français. Lénine nous a enseigné qu'il y a une différence entre le pays oppresseur et le pays opprimé. Les travailleurs en France qui adoptent les mots d'ordre du souverainisme et tout simplement sous l'influence de l'idéologie impérialiste réactionnaire. Les travailleurs grecs, par contre, en parlant de souveraineté, expriment l'aspiration juste à la libération nationale contre la domination impérialiste de part des États-Unis, de l'Allemagne et de la France. Et c'est pour cela que de ne pas s'opposer concrètement aujourd'hui à l'Union européenne, de parler de souveraineté comme une idée réactionnaire partout dans le monde, est une capitulation à l'impérialisme français. Ici, comme en Grèce, c'est que ce soit les communistes qui prennent la direction de la lutte contre l'impérialisme. J'ai fini. La lutte des travailleurs contre l'Union européenne anti-impérialiste est la lutte pour unifier la classe ouvrière européenne sur la base de ses propres intérêts contre l'ennemi principal, les impérialistes occidentaux. Et c'est seulement à travers une telle lutte que nous avancerons vers le but des États-Unis soviétiques d'Europe. Merci.
Un camarade juste devant.
À propos des paroles de Macron qui disait il y a une semaine bientôt que Macron voulait qu'on envoie les troupes occidentales en Ukraine. Et ça, c'est inquiétant. Il faudrait vraiment parler aux élections européennes comme quoi il faut refuser ce genre de marche vers la guerre. Et on voit bien qu'il y a une crise dans les pays capitalistes européens. Il n'y a pas d'unité, heureusement, mais c'est une occasion de s'unir aussi. Voilà ce que je voulais dire, surtout.
Est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a un autre camarade.
Oui, bonsoir. Au début, tu nous as expliqué l'importance des États-Unis dans la création de l'Union européenne. On l'a bien compris au niveau jusqu'à l'époque du bloc de l'Est. Qu'en est-il depuis et comment les États-Unis, enfin les trusts américains gèrent leur relation avec l'UE, quoi.
Bon, ben, je crois que je vais donner la parole à Claire Dunois pour les réponses.
Ça marche ? Oui. Ben, je vais peut-être commencer par la dernière question. Effectivement, les États-Unis sont sortis de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale encore plus en position dominante hein, vis-à-vis des différents impérialismes européens. Ils ont poussé dans le sens de leur regroupement à la fois pour des raisons liées à la situation de la fin de la Seconde Guerre mondiale vis-à-vis de l'URSS et puis aussi parce que pour les trusts américains, c'est comme pour les trusts européens, c'est beaucoup plus rationnel de leur point de vue et en fait beaucoup plus rentable de pouvoir disposer d'un marché unifié. Ce que j'ai dit sur les lobbies, il y a aussi des lobbies américains dans l'Union européenne. Donc de ce point de vue-là, c'est pas du tout une histoire de nationalité. En réalité, c'est le fait que le capitalisme, il a donné naissance à des monopoles qui agissent à l'échelle mondiale et qui essaient de se frayer un chemin sur les marchés à l'échelle mondiale et qui prennent tout ce qu'il y a à prendre. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de spécificité des trusts américains par rapport aux trusts américains. La spécificité, c'est que les trusts américains, ils ont l'État américain derrière eux, ce que justement les pays européens restant morcelés et divisés n'ont pas. Donc du point de vue du capitalisme américain, ce qui lui permet aujourd'hui de renforcer encore son avance sur les marchés mondiaux et européens, c'est d'avoir une puissance bien supérieure à celle des autres du fait de leur marché national, et c'est aussi d'avoir l'État américain derrière eux. Alors après, plus concrètement sur le positionnement des États-Unis en tant qu'État par rapport à l'Union européenne, ils ont toujours un peu, eux aussi, ils ont toujours un peu marché sur deux pieds en même temps, c'est-à-dire l'unité, l'Union a un intérêt économique, stratégique, mais ils n'ont aucun intérêt à avoir une puissance européenne unifiée. Donc de ce point de vue-là, ça maintient la part de division qui suffit. Alors récemment, ce qu'on a pu entendre, c'est les déclarations de Trump. C'est peut-être à ça que tu pensais aussi, sur le fait que Trump, en campagne électorale, dit l'OTAN, nous, quand même, les États-Unis n'arrêtent pas de payer. Il faudrait quand même que les États européens payent un peu plus, prennent un peu plus leur part. C'est assez symptomatique du type de relation qu'il y a entre les États-Unis et, en l'occurrence, l'OTAN, mais en fait, les pays européens. C'est-à-dire que le donneur d'ordre, c'est quand même lui qui fait pression, dans un sens ou dans un autre. Et de ce point de vue-là, avec le développement des budgets militaires, c'est possible qu'ils essaient d'imposer que les États européens financent un petit peu plus l'OTAN. Ce qui ne changera rien au fait que l'OTAN, ça reste un commandement américain. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Alors, sur l'intervention de la LTF. Alors, je suis un petit peu étonnée parce que vous dites qu'un travailleur grec qui serait souverainiste, ça, c'est bien. Un travailleur français, c'est pas bien. Mais un travailleur anglais, c'est bien ou c'est pas bien? Parce que, quand même, vous dites qu'il faut dénoncer l'Europe impérialiste, etc. Vous avez milité pour le Brexit dans Grande-Bretagne, qui, à ma connaissance, n'est pas spécialement un pays opprimé par l'impérialisme. Donc votre raisonnement, il revient en réalité à se ranger derrière les États nationaux, votre anti-impérialisme anti-européen, il vous conduit à vous ranger derrière les États nationaux. Et nous, justement, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas de solution nationale et nationaliste, évidemment dans les pays impérialistes qui oppriment le monde, mais en Grèce non plus. Parce que les travailleurs grecs qui expriment leur opposition à l'impérialisme en se libérant, mais derrière qui ? Derrière les bourgeois grecs, ou derrière les capitaux américains, ou derrière les capitaux d'un autre pays? C'est pas vrai. Il peut pas y avoir une indépendance aujourd'hui des travailleurs isolés dans un pays, encore, et même pas d'un pays tel qu'ils existent aujourd'hui. Le capitalisme a mis la main sur le monde entier. Tous les pays sont dans ce filet. Et oui, on peut changer de parrain. Ça, on peut changer de parrain. C'est ce qui se passe en Ukraine. Mais nous, justement, notre politique, elle se base pas à essayer de choisir un meilleur parrain, elle se base à avoir ce que tu dis, mais que vous ne faites pas, c'est-à-dire une politique indépendante de la classe ouvrière, qui, donc, ne se range pas derrière un camp national, un État, et qui ne marche pas derrière tout ce baratin qui consiste à nous présenter des idées qui sont en fait nationalistes, derrière une belle peinture. Alors, pour certains, la belle peinture, ça va être, on va défendre la démocratie et les droits de l'homme, donc on va aller en Ukraine, livrer des armes à l'Ukraine. Pour d'autres, ça va être, on va défendre l'indépendance nationale grecque pour les armateurs grecs, les banques, pour qui? Et puis là, en l'occurrence, pour ce qui est de la Grande-Bretagne, pour les profits de la grande bourgeoisie britannique. Hein, et le Brexit, c'était une opération politicienne que la classe ouvrière a payé cher économiquement et politiquement. Parce que toute cette politique, ça revient à la mettre à la remorque des gens qui l'étranglent. Donc non, nous, c'est pas du tout notre politique. Nous, on a une politique pour que la classe ouvrière, elle ait conscience de ses intérêts, qu'elle se batte pour ses intérêts au jour le jour, et on est convaincu que c'est en développant la conscience et la combativité que la classe ouvrière, elle retrouvera l'internationalisme qui est absolument vital pour que ces combats ils aboutissent. Alors, ouais. Alors pour finir, Macron et la marche à la guerre, c'est inquiétant. Bah oui, tu as bien raison. C'est plus qu'inquiétant. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de doute à avoir. Les dirigeants des pays impérialistes, enfin de tous les pays du monde, mais enfin en ce qui nous concerne, de la France, de l'Europe, des États-Unis, ils préparent la guerre. Ils la préparent en s'armant. Hein, les budgets militaires explosent. Et puis, ils ont aussi besoin de la préparer politiquement et idéologiquement. Et la déclaration de Macron, il y avait très certainement un côté coup politique, je me place comme le chef de l'Europe, voilà, ça c'est assez représentatif du type de relations qu'ils ont les uns avec les autres, mais en même temps c'est sérieux, c'est vrai qu'ils veulent mettre dans la tête de la population qu'on n'aura pas d'autre choix que de faire la guerre. Et tu as raison qu'il faut profiter de la campagne des élections européennes pour discuter de ça, hein, discuter de ça autour de nous, dire que toutes les guerres qui sont organisées par, qui sont préparées, qui sont menées par les États aujourd'hui, c'est des guerres pour les profits des capitalistes, qu'il ne faut pas croire leur racontard, mais pas dire que ça. Dire qu'il y a, nous, on est convaincus que la classe ouvrière, elle a réellement les moyens de mettre fin à la marche à la guerre, mais pas à la marche à la guerre, en fait, à la société. Qui mène à cette marche à la guerre. Et donc défendre dans les élections européennes, comme tout le reste du temps, un programme qui est fondé sur la conscience ouvrière, la combativité, bah, c'est effectivement la seule façon d'ouvrir une perspective à une société qui soit une autre que celle de la bourgeoisie, qui clairement là est en train effectivement de nous embarquer dans un nouveau conflit. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Donc nous, bah oui, les élections européennes, on va s'en servir pour faire exister un courant communiste révolutionnaire et dire que la classe ouvrière, si elle se bat, elle a les moyens de changer le monde et de mettre fin à toutes ces guerres qui sont en train de nous préparer.
Alors, nous allons clore ce CLT, mais avant de nous séparer, je voudrais vous annoncer le meeting régional de la campagne, justement, des européennes, avec Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier, qui aura lieu, donc, pour l'Île-de-France, le vendredi 26 avril. Et c'est une occasion pour ramener le plus possible, justement, de gens pour discuter de tout ça. Et d'autre part, notre deuxième rendez-vous, ça sera la fête, notre fête nationale, hein, qui a lieu le 18, 19 et 20 mai à Presles, comme chaque année.